Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Grands espaces, nature sauvage et préservée, paysages à couper le souffle, l'Ouest américain vaut réellement le voyage. C'est ce que cet écrivain nous incite à venir voir à travers un recueil de nouvelles, fait de récits percutants par leur thème, leur style, leur pouvoir évocateur, la psychologie des personnages et parfois une certaine dose d'effroi et aussi de rire. Voici une radioscopie de l'Amérique profonde, telle que nous ne la connaissons pas. L'ouvrage est intitulé « Viens voir dans l'Ouest », il est édité chez Albin Michel, et j'ai le grand plaisir d'accueillir son auteur, Maxime Loskutov.
Hello, Maxime Loskutov.
Oui, voilà, bonjour Maxime Loskutov, merci d'être là.
Hello, it's such a joy to be here.
Alors, viens voir dans l'Ouest, c'est le titre de votre roman en français. Pourquoi venir voir l'Ouest? Pour admirer, pour comparer avec l'Est, pour comprendre tout simplement.
Donc la principale raison est certainement pour mieux comprendre l'Ouest. Ayant grandi moi-même là-bas, j'ai souvent été surpris par la colère des personnes, par la colère des gens, et fasciné en quelque sorte par une certaine urgence que je constatais, une urgence du mouvement, des choses qui se passaient dans le monde rural à l'extérieur de la ville. Et cette urgence des choses, cette fascination et la beauté, la grande beauté des paysages qui étaient en contraste en quelque sorte avec la colère que je constatais autour de moi.
Alors on parlera de cette colère tout à l'heure, mais on peut parler aussi déjà de lieu où vous vivez, de Missoula. De nombreux écrivains vivent dans le Montana et vivent dans la ville de Missoula, comme vous qui enseignez à l'université. C'est une ville légendaire pour les Français, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, des amateurs de littérature anglaise connaissent par exemple Norman MacLean, Jim Harrison, Raymond Carver, Dorothy Mary Johnson, too, and so on. There are a lot of others, excusez-moi. And my question is, est-ce qu'il y a un air spécial à Missoula qui invite à l'écriture?
I think so. I think that there is a sense of.
Alors bien sûr, il y a quelque chose dans le Montana, à Missoula, qui invite quelqu'un qui aurait l'âme littéraire à écrire. On se sent en quelque sorte attrapé dans le grand cercle de l'histoire. Moi-même, ma famille ayant des origines russes et ayant grandi, traversé des écoles publiques, j'ai pu côtoyer des gens d'horizons très divers et des cultures très, très variées en fait dans ce lieu. Et on se sent vraiment à la confluence de ces origines que l'on s'en présente et aussi des cultures dont on sent qu'elles étaient très ancrées en Amérique bien avant que nous soyons là. Il y a vraiment ce sentiment de la contradiction entre le lieu d'où l'on vient et le lieu où maintenant nous sommes et auquel on se sent appartenir. Et je pense qu'on essaye de tracer, de s'ancrer soi-même dans l'histoire, en quelque sorte.
Alors, mais comment cohabitent ces écrivains très nombreux dans le Montana, généralement plutôt libéraux, et des hommes qui ont été ou qui sont des cowboys, des trappeurs, plutôt conservateurs, il me semble.
Very interesting question. I think that there is a way that everyone wants their mythology.
Je pense qu'il y a un certain sens de la mythologie qui est renouvelée et répétée. Moi-même, par exemple, quand je vais de temps en temps dans des bars du Montana rural, je suis confrontée à ces gens qui pourraient être des trappeurs ou qui pourraient être plutôt conservateurs. Mais en tant que dès qu'ils apprennent en fait que je suis écrivain, que j'écris des histoires et des choses fictives, ils sont très curieux, ils viennent tout de suite me parler, me poser des questions, et je pense qu'ils sont au final très contents que quelqu'un dise enfin leur histoire. Et moi qui pensais que le métier d'écrivain qui consistait peut-être à survivre, je constate vraiment qu'en vérité, ça fait partie, ça répond à un besoin d'avoir notre histoire.
Ah oui, c'est très intéressant. C'est une question que je voulais poser plus tard, parce qu'on a l'impression que globalement, il y a un refus des intellectuels, les étudiants par exemple, dans les nouvelles, des médias et des gens des grandes villes. Voilà, c'est mm-hmm. dans une ou deux, plusieurs nouvelles d'ailleurs, je vois ça, il me semble.
That's true. I think that there's a way in which people in these rural areas define themselves in opposition to anything that they see as being sort of mainstream media, and they see, you know, universities as being part of that. At the same time, they still do.
Effectivement, il y a bien une opposition qui est ressentie, enfin une opposition aux médias, à tout ce qui est mainstream, tout ce qui est le plus répandu. Mais ça n'empêche pas que ces gens veuillent en fait quand même veuillent faire partie de l'histoire et d'une certaine mythologie. Donc même si ils sont assez réservés quand il s'agit du média en tant qu'outil ou du média comme concept très général, sur le plan personnel, ils peuvent toujours, enfin ils ont même ce besoin de savoir comment en fait est-ce qu'ils peuvent être ancrés dans la mythologie du monde, dans la mythologie de l'Ouest.
Alors, on dit qu'ils sont héritiers donc des pionniers, des trappeurs. Ils en ont les qualités, courage, prise de risque, en fait, etc. Et, mais aussi les défauts, la violence, le racisme. Est-ce que ça développe une mentalité vraiment très différente de celle de la population de la côte Est?
Yes, there certainly is. I mean, you know, America is so complicated just because of its vast size. I mean, there's a lot of people in Montana.
Bien sûr, l'Amérique est si compliquée. Donc certes, il y a une grande opposition entre le Montana et une grande ville de l'Est comme New York, par exemple, qui peut paraître même exotique, voire romantique à certaines personnes de l'Ouest américain. Je pense surtout qu'il y a un énorme manque de compréhension entre les deux parties, disons, ou entre les personnes. Ce qui ne peut pas être compris, par exemple, par beaucoup de gens de la côte Est, c'est qu'il y a la question des territoires, des terres publiques qui appartiennent à l'État, en fait, dans l'Ouest américain. Par exemple, dans le Montana, 70% des terres et des territoires appartiennent à l'État et sont totalement libres d'accès, accessibles gratuitement, et tout le monde peut les utiliser. Il s'agit d'une question très importante dans le Montana, et on se pose vraiment la question de l'usage de la terre, de l'utilisation qu'on fait des paysages. Par exemple, pour beaucoup de gens, il est toujours très important de pouvoir exploiter des mines, de pouvoir chasser des animaux, de pouvoir abattre des arbres. Donc voilà, ce sont vraiment des questions qui se posent.
Oui, alors justement, on sent dans vos nouvelles, parce que pour nous, c'est les États-Unis paraissent un pays où tout est possible, où on peut recommencer une vie, espérer mieux. Or, dans vos nouvelles, on sent qu'il y a beaucoup d'amertume, de colère. Alors, ce que vous dites au sujet des terres qui ont été confisquées, on comprend. En fait, si elles sont confisquées, c'est que ça a été transformé en parcs nationaux. C'est ça, je suppose. Il y a donc cette colère qui fait que l'État fédéral est considéré comme un ennemi.
Yes, there's a lot of anger in the West at At the idea, it is often environmental.
Oui, il y a beaucoup de colère dans l'Ouest aujourd'hui. Les gens de Washington D.C. Contrôlent ces terres de l'Ouest, bien qu'ils soient à distance, et les personnes qui habitent dans l'Ouest américain n'ont plus l'usage de ce qui était leur terre à une époque. Ils ne peuvent plus non plus faire les activités qu'ils faisaient à une époque. Donc il y avait une certaine idée de l'Ouest à une certaine époque, de l'Ouest comme une terre de refuge, une terre vers laquelle on pouvait s'enfuir pour échapper à cette colère engendrée, par exemple, par l'Est. Voilà, une terre vers laquelle on pouvait se tourner si on en avait marre de la ville, du bouillonnement de la côte Est. Maintenant, on est aussi arrivé à la fin de cette histoire-là. Maintenant, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de lois. Beaucoup de gens viennent dans l'Ouest en s'attendant à pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi, mais ce n'est plus le cas.
And that's not the case anymore.
Alors justement, il y a également beaucoup de chômage, donc ça signifie que l'État fédéral investit peu. Ça doit accroître la colère aussi.
It does. I think the foundation of a lot of the anger is just the changing of industries. The town where I grew up when I was a child, there were two...
Oui, de toute façon, la fondation même de la colère est le changement qu'il y a eu dans les industries. L'industrie du bois qui était vraiment prédominante à une certaine époque a beaucoup diminué. Une première génération qui comptaient sur la sécurité de l'emploi dont avaient bénéficié leurs parents, s'est vu interdire en fait ces travaux, tout simplement à cause de leur disparition, de disparition de ces secteurs, donc secteurs qui se sont fait remplacer par d'autres comme le tourisme, les universités, des métiers beaucoup plus intellectuels pour lesquels il fallait maintenant faire des études. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à une génération de jeunes gens qui ont vu leurs parents perdre leur travail, ce qui a entraîné beaucoup, beaucoup de colère, effectivement. Aujourd'hui, donc, tout se combine pour une atmosphère d'anti-intellectualisme, ce qui ouvre la voie pour toutes sortes de politiques et de politiciens qui peuvent tirer avantage de ce genre de situation.
Bien sûr. Alors, je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter des chants traditionnels américains, mais Maxime ne les connaît pas, il va les connaître. Voilà, achetés aux États-Unis à une époque. Alors, je suis incapable de vous dire, il y a également, oui, c'est de la musique instrumentale aussi, mais nous écouterons. Voilà.
Here you see old Tom Moore, a relic of bygone days. And a bummer too, they call me now, but what care I for praise? For my heart is filled with woe, I often grieve and pine. For the days of old, the days of gold, the days of 49. For the days of old, when we dug up the gold, in the days of 49. I had comrades then, a saucy set. They were rough, I must confess, but staunch and brave and true as steel, like hunters from the west. But just like many another fish, they've now run out their line, and like good old bricks, they stood the kicks of the days of 49. There was Monty Pete, I'll never forget the luck he always had. He'd deal for you both night and day, or as long as you had a scad. One night a pistol laid him out, 'twas his last layout in fine. And it caught Pete sure right bang in the door in the days of 49. And then there was another chap from New Orleans, Big Reuben was his name. In the plaza there, on a sardine box, he opened the faro game. And he dealt so fair that a millionaire he became in course of time, till death stepped in and called a turn in the days of 49. There was Kentuck Bill, one of the boys, he was always in for a game. Didn't matter whether he lost or won, to him it was all the same. He'd ante a slug, he'd pass the buck, he'd go a hatful blind. And in the game of death, Bill lost his breath in the days of 49. Then there was New York Jake, the butcher boy, so fond of getting tight. Whenever Jake got full of gin, he went looking for a fight. One night he ran against a knife in the hands of old Bob Klein. And over Jake we held awake in the days of 49. Of all the comrades I had then, there's none left now but me. And the only thing I'm fitting for is a senator to be. And the people cry as I pass by, there goes a traveling sign. That's old Tom Moore, a bummer shore from the days of 49. Oh, I miss the boys and all the noise and the gold that once was mine. In the days of old, the days of gold, the days of 49. In the days of old, when we dug up the gold, in the days of 49.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Maxime Loskutov. Je ne sais pas comment on prononce en anglais Loskutov.
Perfect.
Qui a écrit un ouvrage de nouvelles intitulé « Viens voir l'Ouest », édité chez Albin Michel. Et un grand merci également à Sérène Actug, qui est notre interprète, brillante interprète. Merci encore. Oui, nous parlions de la colère des gens de l'Ouest et que l'on voit dans vos nouvelles, très différentes, on en parlera aussi. Colère d'autant plus forte qu'ils estiment que ce sont eux qui ont construit le pays. Ils se réfèrent toujours à la constitution des 13 États fédérés. 13. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que les autres États, pour eux, n'existent pas.
Yeah, I think that's very smart. I think a lot of it comes from the idea that for people in the West, particularly ranchers, loggers and miners, they feel that none of the cities
Oui, bien sûr, donc les personnes qui travaillaient dans les mines, dans les ranchs à l'époque considèrent d'un certain point de vue que ces grandes villes que ce soit de l'Est américain ou même de l'Ouest américain, enfin la Silicon Valley, Los Angeles, tout ça n'existerait pas sans leur effort pour construire d'un certain côté le pays. Et à côté de ce sentiment, il y a celui de se sentir effectivement rejeté, comme on a parlé tout à l'heure, le fait d'être rejeté parce qu'on n'a pas pu aller à la fac, faire des études supérieures. Donc voilà, vraiment une grande contradiction entre ce sentiment que le reste du pays a effectivement besoin d'eux, puisqu'ils travaillent, eux, sur les ressources naturelles. Mais d'un côté, on n'a plus vraiment besoin d'eux, puisque les richesses sont concentrées ailleurs.
Alors, dans les personnages de Maxime Loskutov parlent beaucoup de la de ce que l'on trouve dans la Constitution, c'est-à-dire la puissance de l'individu, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, et puis ce droit de porter les armes. Et donc ces personnages se réfèrent beaucoup à la Constitution. Ça paraît extrêmement important, celle-là et justement ces points-là.
I think so. I think particularly in the West, this idea.
Effectivement, on trouve chez mes personnages, comme chez beaucoup de gens dans l'Ouest américain, l'idée d'une dépendance de soi-même, en fait, enfin, l'idée qu'on ne dépend que de soi-même en tant qu'individu, et l'idée que, en demandant des choses au gouvernement, en quelque sorte, on serait moins bien considéré ou affaibli. Donc l'idée serait que le gouvernement devrait rester hors de la vie des individus, de la vie quotidienne. C'est une idée profonde de liberté, en fait. Il s'agit d'éteindre des gens, et il s'agirait aussi donc de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, utiliser ces terres de la façon dont on le veut. Voilà, l'idée dominante dans l'Ouest américain est qu'il y a trop de gouvernements.
On a bien compris. Alors, il y a dans vos nouvelles, régulièrement apparaît, on est dans un temps non défini, mais futur. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu la création d'un État dans l'État qui s'appelle la Redoute en français. Alors, est-ce que c'est un espoir ou une peur en même temps?
That's an interesting question. I think for me, I would be scared. I think that it you know, it's based.
C'est une bonne question. Personnellement, j'opterais plutôt pour la peur face à un tel développement de la Redoute. Donc, la Redoute s'inspire d'un véritable lieu qui existe vraiment, donc d'un groupe de personnes qui pensent vraiment qu'un Nord-Ouest indépendant pourrait être construit, pourrait devenir indépendant et avoir ses propres lois. Je considère que cette idée n'est pas forcément mauvaise en elle-même. Mais bien sûr, des leaders charismatiques qui se trouvent dans l'Ouest peuvent profiter de la situation ou rendre la situation dangereuse. Par exemple, des personnes vivant à l'origine dans le Texas ou dans l'Arizona, dans des États du sud-est américains, arrivent, donc ce sont des jeunes gens armés lourdement, leur mouvement, à mon sens, consiste moins et moins idéologique que réactionnaire.
Just sort of lashing out at a changing world.
Une question très française. Est-ce que vous voyez des similitudes avec nos gilets jaunes? Est-ce que vous connaissez les gilets jaunes en France?
Yeah, I think that there is.
Oui, bien sûr, je connais ce mouvement, et bien que les détails des deux mouvements soient bien différents, ils sont aussi très similaires pour beaucoup de raisons. Je pense que le sentiment d'avoir été trahi et le sentiment de colère que l'on retrouve dans les deux pays sont similaires. Donc, un sentiment de colère des personnes qui habitent dans les campagnes, dans les régions rurales, leur colère contre les grandes capitales. Ce sont des choses, en effet, qu'on retrouve et aux États-Unis et en France. Par contre, en France, je remarque aussi qu'il y a parfois une certaine proximité de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qu'ils arrivent parfois à se réunir sur certaines questions. Aux États-Unis, il était arrivé qu'un militant donc de ce mouvement dans le Nord-Ouest américain soutienne en fait le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, donc mouvement qui consistait à défendre les droits des Noirs. Donc cette personne, le militant du Nord-Ouest américain, a été rejeté de son propre mouvement parce qu'il a soutenu le mouvement Black Lives Matter.
Mouvement plutôt de gauche.
Qui est un mouvement vraiment de gauche, oui, Black Lives Matter pour le coup. Donc il s'agit vraiment aux États-Unis, à mon sens, d'un profond sentiment d'une absence de volonté, en fait, de l'extrême droite d'être associée avec l'extrême gauche. Pourtant, dans tellement d'autres domaines, ils pourraient être alliés.
Alors, dans vos nouvelles, il y a également une étude psychologique des personnages. Alors, ce sont des personnages très différents. Il y a une mère de famille, un charpentier au chômage, un trappeur, une bande de copains. Finalement, ce sont des gens simples que vous avez choisis, souvent pauvres, insatisfaits, amers. Et ce qui frappe, c'est ce sentiment de fragilité. Ils paraissent fragiles, il n'y a pas de relation humaine solide.
Yeah, I think a huge question of my work is, you know, particularly sort of masculine fragility, you know, because that's what I grew up around so much was a certain kind of broken masculinity.
Il y a effectivement l'idée d'une masculinité fragile ou bien d'une fragilité masculine, on peut le prendre dans les deux sens. Il y a effectivement une masculinité cassée. Par exemple, j'aborde plusieurs personnages qui sont des jeunes hommes qui sont pleins d'une énergie, énergie pour laquelle ils n'arrivent pas à trouver une place dans le monde. Donc cela répond à la situation qui serait faible, en fait, face au monde moderne, au monde d'aujourd'hui. Donc on retrouve aussi des personnages qui sont en quelque sorte des représentants d'anciens personnages mythiques, ces arrivants, ces pionniers qui se sont installés, qui ont progressé petit à petit vers l'Ouest américain pour s'y installer et pour y créer en quelque sorte leur mythologie. Donc tout cela contribue à ces sentiments de besoin, de manifestation d'une masculinité qui ne trouve pas d'exutoire. Et cela contribue aussi à des sentiments d'isolation, de solitude, et résulte en une certaine violence dans les récits.
Alors, il y a la nature aussi. Alors, la nature qui est proche, mais qui peut être inquiétante. À un moment donné, il y a une nouvelle où on voit les arbres qui pourrissent, où il y a un arbre qui fait peur. Bon, c'est une nature magnifique et immense. Et alors, cette magnificence, je dirais, elle peut être à la fois écrasante et donner un sentiment de solitude. Peut-être, je ne sais pas.
Oui, à mon avis, le contraste, en effet, que vous avez éprouvé entre cette nature magnifique et écrasante et la solitude qu'elle peut susciter est dû au fait que les gens sont attirés par des grands espaces, des énormes espaces vides. Donc l'humain seul éprouve une certaine forme d'horreur, en fait, d'inquiétude face à ces grands espaces dans lesquels ils se retrouvent vides. Et en même temps, il y a une telle attirance qu'on voudrait faire un bout de ces espaces nôtres, qu'on voudrait les rendre à nous. Et cela contribue, à mon avis, à un sens de la nature sauvage perdue.
Alors, il nous reste peu de minutes. Alors simplement, je voudrais dire qu'il y a aussi de l'humour, et en particulier quand on parle des animaux, l'ours, Jobert, le Python, on comprend, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri à cette nouvelle du Python qui regarde un homme le Python s'est allongé sur le lit. C'est peut-être pas la peine de traduire ça. Ces nouvelles évoquent les relations avec les animaux comme si l'homme était finalement, avec comme recours, était plus proche des animaux en qui il a plus confiance, d'une part. Je voulais dire aussi, moi, saluer l'art de la nouvelle, parce que c'est un exercice difficile, intense, bref, et qui laisse une grande liberté au lecteur. Dire ici, ce sont des tranches de vie qui demandent à l'auteur une capacité de choisir, d'épurer, de resserrer. Ma dernière question, Maxime Loskutov, est-ce que vous êtes comme George Orwell? George Orwell, do you know?
Yes.
Yes, 1984. Est-ce que ce sont des écrits d'anticipation, annonciateurs d'un avenir sombre, voire apocalyptique, une guerre civile, par exemple, ou êtes-vous plus optimiste?
I think I do still have hope. I think my dream as a writer would be to, in some small way, begin to create a new mythology, because I think that as human beings,
je pense pour ma part qu'il y a encore de l'espoir. Mon rêve en tant qu'écrivain, c'est de commencer à créer une nouvelle mythologie. En effet, le but serait de changer, de réviser un peu nos mythologies fondatrices. Et de voir comment les nouvelles histoires peuvent permettre de résister à la destruction environnementale qui est en cours, à la violence aussi qui est en cours. Comment peut-on créer une nouvelle mythologie plus résistante, plus durable, qui puisse résister même au paysage et au climat de l'Ouest américain.
Without destroying it, what can we learn from the stories they told about creating mythology that might allow us to have the kind of society that could endure in a landscape like the West?
En tout cas, un grand merci à Maxime Loskutov, un grand merci à vous pour toutes ces nouvelles, toutes vraiment très intéressantes, très différentes aussi. C'est le titre « Viens voir dans l'Ouest », édité chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Alors, merci aussi et ô combien à Seren Aktug. Merci pour avoir traduit et très bien traduit toutes ces questions et toutes ces réponses. Au revoir.
Au revoir, thank you.